Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la sainteté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Amen. Encore une fois, salutations fraternelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le frère Papy pour une très belle modération et surtout pour le résumé du message du dimanche passé, ce qui nous a prouvé que nous avons une jeunesse sur laquelle nous pouvons compter.
Amen.
Nous avons des ministres de Dieu qui sont en formation. La Bible déclare que le sacrificateur ne manquera pas des successeurs. Et nous sommes au moins sûrs que lorsque nous serons absents, nous pouvons compter sur des grandes dames, sur des grands garçons qui vont être des ministres de Dieu. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc le service de Dieu ne tient pas compte de l'âge, mais c'est l'huile qui est versée sur la tête d'une personne qui la qualifie et la rend capable de faire le ministère qui sera agréé et approuvé par Dieu. Notre frère Yves nous a conduit dans un très bon moment d'étude de la parole de Dieu. Il nous a encouragé à servir Dieu. Il vous a encouragé à servir Dieu. Vous qui êtes encore dans le banc et qui ne faites rien, Dieu vous a parlé par la bouche d'un jeune pour vous encourager à le servir. Il y a bien des choses qui doivent être faites dans cette église. Associez-vous à une chorale, associez-vous à l'équipe des louanges, associez-vous au moniteur de l'école de dimanche, associez-vous à l'équipe de protocole, associez-vous à l'équipe de ménage, associez-vous à l'équipe d'intercession. Mais bref, associez-vous même à l'équipe de multimédia pour filmer, tirer des photos, mettre le message sur le site. Faites au moins quelque chose, de sorte que si le Seigneur revient aujourd'hui et s'il vous posait la question, frère, sœur, qu'est-ce que vous avez fait dans mon église, vous puissiez dire avec fierté, non, moi j'ai chanté dans la chorale. Mais si le maître vous pose la question aujourd'hui et vous commencez à réfléchir, ce ne sera pas une bonne action. Et rassurez-vous aussi qu'il y a une bénédiction qui est toujours rattachée au service qu'on fait. Quand vous voyez certaines personnes engagées à servir Dieu sans relâche, c'est parce qu'ils ont compris que derrière ce service, il se cache un secret. La Bible dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Donc, tant que ce verset n'aura pas été enlevé de la Bible, moi je vais y croire et moi je vais l'appliquer. Et je sais que j'ai toujours servi Dieu. Je ne peux pas vous dire combien Dieu me bénit, même là où je ne sais même pas que j'ai besoin de bénédiction, mais Dieu s'occupe de moi. Ce même Dieu qui ne fait pas exception des personnes, il ne fera pas l'exception quant à vous. Il va certainement vous bénir. Il va vous bénir lorsque vous allez vous engager à le servir parce qu'il est le Dieu fidèle à sa parole. Et le frère a insisté sur deux choses que frère Papy a résumées ce matin. Première chose, quand Dieu t'appelle pour le servir, il ne s'arrête pas sur tes excuses. Tu peux donner des excuses qui sont fondées ou pas fondées. Dieu ne les regarde pas. Pour la simple raison que Dieu connaît chaque chose avant même que la chose n'arrive. Quand Dieu vous appelle, il sait que vous avez des excuses à avancer. Mais comme il le sait, il n'a pas besoin de les entendre. Il a plutôt besoin de vous voir dire oui à son appel et de vous mettre à son service. Et la deuxième chose sur laquelle le frère a insisté, c'est que quand Dieu t'appelle, il t'équipe lui aussi et il te soutient. Quand il sait que tu as une excuse, c'est lui qui va être une solution à ton excuse. Quand il sait que tu ne sais pas parler, il va pourvoir. Il a dit à Moïse, qui fait parler? C'est moi qui fais parler. C'est moi qui permets à un homme de parler. Si tu ne parles pas aujourd'hui, je suis capable de délier ta langue et de te permettre de parler. Mais comme Moïse avait commencé par un doute, il avait raté la chance que Dieu délivre sa langue. Il avait raté la chance que Dieu délivre sa langue à cause de sa discussion et de ses excuses, Dieu lui a dit, maintenant, je vais faire d'Aaron ton prophète. Donc c'est Aaron qui va parler à ta place, toi reste avec ta langue lourde. Mais s'il avait été fidèle, Dieu aurait pu délier sa langue et il aurait été fier lui-même de parler au peuple de Dieu par sa propre bouche. Donc le frère nous a encouragés à quitter l'important ministère de la chaise. Il faut quitter l'important ministère de la chaise pour vous lever et vous mettre au service de Dieu. Le dimanche d'avant, donc c'était le dimanche 11 mai, l'ancien janvier nous avait entretenu sur un sujet important aussi. Et le titre de ce sujet, c'était « Le secret du succès de la vie chrétienne ». Ce message est sur notre site. Et le but de ce message était de nous encourager à mener une vie chrétienne victorieuse. Et l'homme de Dieu avait insisté sur trois petites choses pour atteindre ce but. Donc, nous devons travailler pour atteindre le but. Frère, vous êtes laboureur, vous avez besoin d'avoir une récolte abondante. Vous devez d'abord passer le temps à travailler dans le champ. Lorsqu'on trouve que vous allez chercher la récolte sans avoir travaillé dans ce champ-là, on va dire de vous que vous êtes un voleur, un maraudeur. On va vous attraper et peut-être vous mener en justice. De même, lorsque on veut faire des grandes choses avec Dieu, vous devez travailler, frère. Il faut enlever l'esprit de faiblesse. Vous voyez que les deux messages se touchent. Donc, le frère, il vous a encouragé à servir Dieu, c'est-à-dire à travailler pour Dieu, alors que le diacre, l'ancien janvier, vous avait déjà dit, comme première chose, vous devez travailler si vous voulez atteindre le but que vous vous êtes assigné dans votre vie. Et le deuxième élément qu'il a souligné, c'était que vous devez travailler dans la discipline. C'est très important. Parfois, on se lève le matin pour aller au travail, mais le cœur n'y est pas. Vous ne voulez pas aller au travail. Surtout en hiver, comme au mois de janvier de cette année, il faisait horriblement froid. Vous vous réveillez le matin pour aller au travail. Vous ne voulez pas. Vous dites, mais autant rester dormir encore. Vous avez retouché l'alarme deux fois. L'alarme a sonné la première fois. Vous levez seulement la main, vous arrêtez, dites, arrête-toi. L'alarme s'arrête. Mais après 2-5 minutes, l'alarme reprend encore. Vous dites, ah, vous vous levez, vous allez. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes conditionné, vous n'avez pas de choix. Et aussi parce que vous savez que vous vous êtes donné une discipline, que je dois aller travailler pour prendre en charge ma famille. Même chose quand vous travaillez pour Dieu. S'il n'y a pas de discipline, vous ne pourriez pas devenir un grand ministre de Dieu. Parfois, pour se lever à minuit et prier, le corps refuse. Mais vous vous dites, corps, même si vous refusez, moi je vais me lever et je vais prier. Parfois, pour venir à l'église dimanche matin, il y a un coup de téléphone qui sonne. Vous vous dites que non, moi je dois être discipliné, je dois me donner des règles de jeu, établir des principes dans ma propre vie, de sorte que le travail que je vais faire puisse mener à un résultat concret qui peut être une bénédiction pour moi-même et pour les autres personnes. Et la troisième chose qu'il a partagée avec nous, c'était que vous devez travailler avec persévérance. Vous savez que la persévérance, c'est ça la vertu des vainqueurs. Lorsqu'un vainqueur court, ne vous en faites pas, c'est lui. Quand j'étais chez maman hier, j'ai vu, on a balancé le film des gens qui faisaient la boxe. J'avais peur, je me disais, mais qu'on arrête cette histoire. On cognait sérieusement un garçon. Mais moi, je dis, mais il va mourir. Non, le garçon, lui, ne voit pas ce que moi, je vois. Il persévère. Vous voyez que si vous ne persévérez pas, vous ne pouvez pas arriver à gagner quelque chose dans la vie. Même chose dans la vie chrétienne. Même lorsque les choses semblent aller mal, vous devez persévérer parce que le bon fruit se trouve au bout, à la pointe des efforts que vous allez mener, frères et sœurs bien-aimés. Et le dimanche 4 mai, j'ai résumé le message de tous les mois, parce que je vais faire la connexion entre le message d'aujourd'hui et le message que nous avions partagé le 4 mai. Le dimanche 4 mai, nous avons partagé un message que j'avais apporté sur la force de l'unité. Et la parole de Dieu a été lue dans Ézéchiel chapitre 37 et nous avions lu du 1er au 10e verset. Et le but de ce message était de vous encourager, d'encourager l'Église à développer la culture de l'unité parce que je vous ai fait comprendre que là où les hommes se tiennent ensemble, là où les hommes se tiennent main dans la main, ils sont capables de réaliser des grandes choses. Ils sont capables de réaliser des très, 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 très grandes choses. Et je vous ai fait comprendre que l'unité est la force du succès. Vous voulez vraiment remporter des grandes victoires. Vous voulez vraiment avoir du succès dans tout ce que vous faites. Vous devez apprendre à travailler en unité, à travailler en équipe. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque deux ou trois se mettent ensemble, Dieu se manifeste au milieu d'eux. Et les hommes nous disent que l'union fait la force. Je vous ai partagé deux principes importants qui favorisent l'unité. Le premier principe, en partant de ce texte d'Ézéchiel, c'était le principe de rapprochement. Donc, si nous ne nous rapprochons pas les uns des autres, il est difficile qu'on puisse parler d'unité. Pour parler d'unité, il est normal que mon frère Anthony se rapproche de moi, que mon frère Christian se rapproche de moi, que moi je me rapproche de mon frère Papy et nous allons former une équipe. Nous avons vu que lorsque les ossements ont entendu la prophétie qui était débitée par Ézéchiel sur l'ordre de Dieu, eh bien, la première chose que ces ossements ont fait a été de se rapprocher. Pourquoi ? Parce que les ossements savaient bien que même si Dieu parle du matin au soir, si eux ne se rapprochent pas, la vie ne pourra jamais venir en eux. Et ils ont décidé de se rapprocher pour permettre à la bénédiction de l'Éternel de descendre. Et le deuxième principe que je partage avec vous, c'était le principe du respect de l'ordre établi. C'était très important. Lorsque les ossements se sont approchés, le crâne, l'os du crâne a pris sa place. Chaque personne a une place. Et le fémur a pris sa place. Le tibia a pris sa place. Ce n'est que dans cet ordre que le squelette humain a été formé pour permettre maintenant à Dieu de tendre les nerfs, de faire pousser la chair, de couvrir par la peau et de souffler l'esprit pour que ses os reprennent vie. C'est très important, frères et sœurs bien-aimés, dans le travail que nous faisons, non seulement de nous rapprocher. Votre frère à côté de vous, votre sœur à côté de vous, n'est pas votre ennemi, il est votre frère. Vous devez apprendre à le regarder maintenant, à vous approcher de lui maintenant, de sorte que le jour où vous allez vous retrouver dans le siège du ciel, que vous pourriez encore vous regarder en face. Sinon, un restera à la porte et l'autre entrera. Et deuxième chose, nous devons respecter l'ordre. Parfois, nous sommes allergiques à l'ordre. Parfois, nous sommes allergiques à l'ordre, surtout dans le siècle présent où beaucoup de gens parlent de la démocratie. Les gens s'imaginent que parce qu'il y a démocratie, tout le monde peut faire tout, tout le monde peut se comporter de n'importe quelle manière. Erreur totale. Que ce soit dans nos propres maisons, que ce soit dans nos lieux de service, que ce soit dans l'église de Dieu, il y a toujours un ordre qui est établi. Marchons dans cet ordre, alors nous allons accéder au succès et au vrai succès. Aujourd'hui, je reviens sur ce thème de la force de l'unité. Je vais vous inviter à tourner les pages de vos Bibles avec moi dans Éphésiens chapitre 4 et nous allons lire du 10e au 15e verset. La Bible dit ceci. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Je m'arrête là. Bien-aimés, lorsque nous posons un diagnostic objectif sur l'état de la plupart de nos églises aujourd'hui, nous sommes frappés par deux choses d'entrée en jeu. La première chose qui nous frappe, que nous observons, c'est que la plupart des chrétiens qui fréquentent nos églises sont mal affermis. C'est-à-dire, la plupart des chrétiens accusent un profond déficit dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est une observation objective. Vous pouvez vérifier cette observation, même telle que nous sommes assis là, et vous vous apercevrez que la plupart d'entre nous et la plupart des chrétiens que nous rencontrons dans nos églises manifestent un profond déficit dans la connaissance des Écritures. Et cela est dangereux. Je vous parle aujourd'hui de la force de l'unité, mais avec un accent particulier placé sur la maturité spirituelle, dans le but de vous faire comprendre que c'est la maturité des chrétiens qui garantit la vraie unité au sein de l'église locale. Donc, si l'église n'est pas composée des chrétiens matures, il est difficile qu'on puisse y observer la vraie unité. Et c'est ainsi que j'ai commencé par relever deux observations qui proviennent de notre examen de l'état de l'église par le temps qui court. Et je vous dis que la première observation, c'est que nombreux chrétiens accusent un déficit réel dans la connaissance des choses de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. Et le deuxième élément, la deuxième observation, c'est que ce déficit conduit à une instabilité notoire. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens sont instables dans leur foi. Et cette instabilité, qui est la conséquence de leur déficit dans la connaissance de la parole de Dieu, se manifeste par des migrations au sein des églises locales et même par des migrations doctrinales. Qu'est-ce que je veux dire par là ? À cause du déficit dans la connaissance de la parole de Dieu, les chrétiens qui ne sont pas du tout affermis vont devenir très nomades. C'est-à-dire que dans leur bonne foi, je ne dis pas que c'est dans la mauvaise foi, dans leur bonne foi, vous les voyez en train de changer d'église, mais vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est la conséquence du déficit dans la connaissance des choses de Dieu. Et vous voyez d'autres changer de doctrine. Hier, il confessait que Jésus-Christ est le Seigneur du ciel et de la terre. Après, demain, il vous dit que non, non, Jésus-Christ avait une femme. Ça, c'est quoi? C'est la conséquence de leur marasme, de leur déficit dans la connaissance de la parole de Dieu. Et par le temps qui court, il est important que les fidèles, les vrais chrétiens, puissent atteindre une véritable maturité spirituelle s'ils veulent garder leur foi jusqu'à la fin et s'ils veulent un jour voir le Fils de l'homme et participer à l'enlèvement de l'Église. Dans le texte que nous venons de lire, un beau texte que la plupart des gens connaissent déjà très 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 bien, la Bible nous apprend que Jésus-Christ a établi sur son Église des ministres. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La Bible dit qu'il a donné, c'est lui qui a établi. Souligné, c'est le Seigneur lui-même qui établit ses serviteurs. Frères et sœurs, nous sommes au service d'un grand Dieu. Et si ce grand Dieu vous recrute pour faire un travail, vous allez bien le faire et c'est Dieu va vous agréer. Mais si vous vous autoproclamez dans l'œuvre de Dieu, tout ce que vous allez faire ne sera pas connu par Dieu, ne sera pas approuvé par Dieu. C'est ainsi qu'au dernier jour, vous direz que Seigneur, moi j'ai prêché dans les rues de Montréal, moi j'ai dirigé une grande église. Et Dieu vous regarde et dit que non, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne sont jamais connus de Dieu, pour la simple raison qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, mais ils se sont improvisés. On ne peut pas s'improviser ministre de Dieu. On ne peut pas s'improviser apôtre. On ne peut pas s'improviser docteur. On ne peut pas s'improviser prophète. On ne peut pas s'improviser évangéliste. Il faut attendre l'appel de Dieu et dire oui à l'appel de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ a établi sur l'Église, il a établi ses ministres, il a établi les apôtres, il a établi les prophètes, il a établi les évangélistes, il a établi les docteurs, il a établi les pasteurs. Et il les a établis pour un objectif, ou même pour un objectif très important, si je peux ainsi ajouter, c'est que leur mandat, comme nous le lisons dans ce texte, consiste à perfectionner le peuple de Dieu, consiste à équiper les enfants de Dieu, consiste à donner la connaissance aux enfants de Dieu, aux fidèles, afin que, un, les fidèles deviennent à leur tour capables d'exercer le ministère. Frère, je vais vous dire, quand Dieu vous regarde, ce qu'il attend de vous, c'est que vous puissiez aussi exercer le ministère. Lorsque vous venez à l'église, ce n'est pas tout simplement pour écouter la parole de Dieu, mais c'est pour écouter la parole. Et en partant de l'église, communiquer aussi cette parole à quelqu'un d'autre. Il dit, c'est pour qu'il puisse travailler à l'édification, au perfectionnement du peuple de Dieu, afin qu'il devienne apte à remplir le ministère et qu'il puisse aussi contribuer à l'édification du corps du Christ. Quand Dieu vous regarde, il a besoin que vous puissiez aussi apporter votre apport au corps, frère. Dieu vous a donné un don, il vous a fait une grâce. Il veut que vous puissiez mettre cette grâce à contribution pour l'édification de son œuvre, pour l'édification de l'Église. Quand vous vous chantez, quand vous vous prêchez, quand vous vous priez, quand vous êtes capable de faire la cure d'âme, vous êtes capable de faire le suivi à un frère, à une sœur, Dieu veut que vous puissiez le faire, de sorte qu'une autre personne puisse être bénie et qu'il puisse en bénéficier. Et c'est pour cela qu'il a établi ses vrais ministres dans sa maison, pour que ces ministres vous équipent. Ce que nous faisons dimanche après dimanche, en partageant avec vous la parole de Dieu, c'est vous perfectionner, c'est vous équiper, c'est vous donner le matériel. Mais il faut que vous soyez ouverts pour recevoir ces connaissances. Il faut que vous soyez ouverts pour comprendre ces choses et les appliquer. Il faut que vous soyez vaccinés pour savoir même identifier les vrais serviteurs qui ont reçu l'appel, des faux serviteurs qui n'ont pas reçu l'appel. Et ce que la Bible nous donne est simple, frère. Nous n'avons pas besoin de loupes sophistiquées. Première chose, je regarde les œuvres du docteur ou du prophète ou de celui qui est devant moi. Les œuvres ne mentent pas. La Bible dit que on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Et on ne peut pas cueillir une bonne pomme sur les chardons. Impossible. Vous êtes un docteur de la parole. Vous êtes un ministre de Dieu, un pasteur, un prophète. Vous m'enseignez la voie de la justice. Mais lorsque je vous observe, je trouve que vous êtes impudique. Je n'ai pas besoin de prier Dieu. Dieu, ouvre-moi les yeux pour que je sache qui est celui-ci. Parfois, vous perdez le temps pour rien. Il y a certaines prières qui n'arrivent pas au ciel. Vous allez prier Dieu pour quoi? Jésus-Christ a vécu dans l'impudicité? Jésus-Christ a vécu dans les fraudes? Il a dit, soyez mes imitateurs. Et si vous êtes appelés de Dieu, je n'ai pas d'abord besoin d'entendre la parole que vous me prêchez. Vous d'abord, quelles sont vos œuvres? Et la Bible nous dit que les œuvres de certaines personnes n'ont même pas besoin de loupe. Vous regardez directement, vous voyez que ça c'est un impudique. Vous voyez ça c'est un cupide, ça c'est un escroc. Il y a des escrocs. Et à partir du moment où vous faites affaire avec un impudique, un escroc, toute la bonne parole qu'il va donner après, frère, fermez les oreilles à ses paroles. Où est-ce qu'il va vous amener? Si vous êtes une femme, vous êtes en train de l'écouter, oh, il est docteur, il donne bien la parole. Après quelques jours, vous allez vous retrouver avec lui dans un lieu inconnu. Ouvrez les yeux, église. Écoutez, frère, je suis en train de vous parler de la maturité spirituelle. Ce sont les choses qui touchent mon cœur lorsque vous regardez combien les fidèles sont devenus instables aujourd'hui. Et quand vous posez un vrai diagnostic, vous vous apercevrez qu'il y a un déficit quelque part. Et c'est le déficit de la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque l'Église est équipée par la connaissance et fait un effort pour accéder à cette connaissance, eh bien, aucun charlatan ne peut jamais venir vous séduire ou embrouiller votre foi. Je disais que le mandat de ce ministre que Dieu a établi sur l'Église consiste à vous communiquer la connaissance. Pourquoi alors on doit vous communiquer la connaissance? Cela me pousse à souligner une première chose avec vous, c'est que nous devons avoir la connaissance afin d'accéder à la maturité spirituelle. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas devenir un chrétien mature. Et la connaissance dont je parle ici, c'est la connaissance de la parole de Dieu. On définit la foi comme étant un ensemble de croyances et un ensemble de pratiques rattachées à ces croyances. Je m'explique, hein, maman Philomène. La foi, c'est un ensemble de croyances et un ensemble de pratiques qui sont rattachées à ces croyances. Exemple, nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que les anges existent. Nous croyons que la vie éternelle existe. Cet ensemble de croyances, c'est ça ce qui forme la matière de notre foi. Et les pratiques qui sont rattachées à ces croyances. Je prie et je les mets les vins. Je mange la Sainte Cène. Je chante. Ce sont les différentes pratiques. Mais ces pratiques sont rattachées aux croyances, à mes croyances. Celui qui a d'autres types de croyances, par exemple, celui qui est bouddhiste, qui a ses croyances, il a aussi ses pratiques. Ça forme aussi la matière de sa foi. Mais ce que vous devez noter, c'est que ces croyances doivent être bâties sur des enseignements, c'est-à-dire sur la doctrine à laquelle adhèrent les fidèles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre foi n'est pas tirée du néant. Votre foi est générée par l'enseignement que vous suivez. Et lorsque vous maîtrisez bien l'enseignement qui vous est donné, c'est que vous allez donner à vos croyances un fondement inébranlable. Si vous connaissez très bien ce que votre maître a enseigné, parce que le fondement de votre foi, le fondement de vos croyances, c'est la parole qui vous est enseignée. C'est ce que la Bible appelle la doctrine. Parfois, il y a des gens qui embrouillent d'autres personnes. Ils disent que vous n'êtes pas dans la bonne doctrine. Bonne doctrine, c'est quoi? Doctrine signifie enseignement. Dites tout simplement que vous n'avez pas un bon enseignement. Et montrez par l'étude de la parole de Dieu que l'enseignement que moi je reçois n'est pas bon. Eh bien, lorsque vous avez reçu un bon enseignement, et cet enseignement vous a donné de bonnes connaissances, c'est que vous aurez une foi solide. Et quand vous avez une foi solide, c'est que vous êtes un chrétien mature. Je vous parle de la maturité. Et la première chose à retenir, c'est que la connaissance, c'est elle qui nous conduit à la maturité. Si vous connaissez bien votre doctrine, vous connaissez bien la parole de Dieu, vous êtes un chrétien mature. Mais si vous ne connaissez pas, si vous accusez un déficit de la parole de Dieu, vous êtes alors ce que la Bible appelle un enfant. Vous êtes un chrétien instable, un chrétien immature. La Bible continue. Dans ce que nous disons avec l'apôtre Paul, et il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. La connaissance doit nous conduire à l'unité de la foi, c'est-à-dire à développer la même doctrine, à comprendre et à croire aux mêmes choses. Nous sommes tous dans une même église locale. Il est impossible que nous puissions faire comme des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens croient que la vie éternelle existe. Les sadducéens croient que la vie éternelle n'existe pas. Non, ça ne peut pas marcher. Ce qui va faire la force d'une église, l'unité de l'église, c'est d'abord l'unité doctrinale. Ce que nous croyons tous la même chose. C'est la raison pour laquelle nous nous mettons ensemble. C'est ainsi que lorsque vous arrivez à l'église, vous avez la confession des fois. Parfois, il y a des gens qui arrivent dans des églises qui ne savent pas lire la confession des fois de l'église. Quand quand vous lisez la confession de foi, c'est le résumé de ce que nous croyons. Nous croyons qu'il existe un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Si vous vous croyez qu'il existe trois dieux, vous comprenez dès que vous arrivez ici que ma place n'est pas ici. Parce que de toute façon, même si vous restez, vous ne serez pas avec nous parce que nous ne croyons pas la même chose. Et le jour où vous verrez ce qui réjouit votre cœur, vous allez vous sauver, vous dire que non, non, moi j'étais là provisoirement. Non, frère, vous êtes là provisoirement. Si le maître arrive, comme vous êtes provisoire, il va vous laisser encore continuer le provisoire et il va enlever ceux qui sont définitifs. Mais ça, c'est quoi? C'est tout simplement parce que on ne croit pas à la même chose. Il, pour l'édification des saints, jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'unité de la foi, c'est-à-dire à la même doctrine. Et à la connaissance de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Nous sommes chrétiens parce que Jésus-Christ a quitté le ciel et est venu sur la terre. Et la première chose que nous devons faire dans notre foi, ce n'est pas de chercher à connaître qui est pasteur Badi, non. C'est de chercher à connaître d'abord qui est Jésus-Christ. La Bible dit que, frère, il y a beaucoup de gens qui cherchent à connaître beaucoup de choses dans la Bible. Paul dit que quand je suis venu vers vous, je n'avais pas une autre pensée que de savoir parmi vous Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il y a des gens qui arrivent dans une église, ils regardent, non, dans cette église, les femmes sont assises à gauche, les hommes sont à droite, donc ils ne sont pas dans la vérité, je parle. Frère, quand vous arrivez dans une église, la première chose, hein, est-ce qu'on proclame le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça l'unité de mesure. Est-ce que Jésus-Christ est proclamé ici? Comment il est proclamé? Est-ce qu'il est proclamé en tant que fils de Dieu, né d'une Vierge Marie? Il a vécu sans péché, il a marché sur les eaux de la mer de Galilée, il a ressuscité les morts, il a opéré des miracles, il est mort lui-même, il est sorti du tombeau vivant, il est monté au ciel. Ça, c'est le fondement de la foi chrétienne, frère. La première chose, quand j'arrive dans une église, ce qui va me donner le salut, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Il dit dans Jean chapitre 17 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent Jésus-Christ que toi tu as envoyé. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de choses à connaître, c'est bien, frère. Mais il y a certaines choses que vous pouvez connaître qui n'ont aucun impact sur votre salut. Amen. Mais connaître Jésus-Christ, connaître qui est Jésus-Christ, c'est ça ce qui va vous donner le salut, puisque ça va conditionner votre foi. C'est ce que la Bible nous dit, que jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de l'homme. Quand vous connaissez bien Jésus-Christ, frère, vous êtes un chrétien mature. Parce que vous avez découvert le mystère. La Bible dit que le mystère caché, Jésus-Christ est un mystère. La Bible dit que la parole qui était au commencement a été faite chair. Comment est-ce qu'une parole peut être faite chair? Entrer dans un laboratoire, si vous avez partir d'une parole et former une chair, ça n'existera pas. Comment est-ce qu'un homme peut marcher sur l'eau? Un homme peut marcher sur l'eau. Faites tout. J'ai déjà suivi des aventuriers dire, oh bon, c'était sur la glace comme quand je traverse la rivière, le pont pour partir de chez moi l'hiver, je vois des gens s'amuser sur l'eau. Oh frère, ça, c'est une façon de tromper l'humanité. Jésus a marché sur l'eau liquide, comme vous voyez là. Il marche et il passe. Et si cela ne pénètre pas dans votre tête, il a ressuscité Lazare. Qui peut le faire? Dès que vous êtes déclaré mort, très rapidement, on vous oublie, on commence à parler de vous au passé. Alors, la connaissance de Jésus-Christ, ça vous confère le statut d'un chrétien mature. Deuxième chose, le déficit de la connaissance mène à l'instabilité de la foi. Vous connaissez Jésus, vous êtes un chrétien mature. Vous acquisez un déficit dans la connaissance de Jésus-Christ et de l'enseignement biblique, vous êtes un chrétien instable. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait, afin que nous ne soyons plus comme des enfants. La marque caractéristique des enfants, c'est que les enfants n'ont pas de position fixe. Les enfants changent d'avis. Les enfants sont facilement trompables. Les enfants croient à tout. Frères, sœurs, si vous n'avez pas la reconnaissance de Jésus-Christ, vous n'avez pas la vraie connaissance de la parole de Dieu, vous êtes alors appelé un chrétien instable. Et à partir du moment où vous devenez un chrétien instable, vous êtes alors instable. C'est ça ce qui va faire que on va noter dans votre vie, dans votre marche avec Dieu, des migrations multipliées. Même des migrations doctrinales. Pour la simple raison que vous n'avez pas été sûr de ce en quoi vous avez cru. Ou vous ne le connaissiez pas. C'est ce que j'ai donné comme exemple. Que vous avez cru le matin que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le soir, on vous dit que Jésus-Christ avait une femme qui s'appelle Marie de Madeleine. Vous dites, ah, je ne savais pas. Vous abandonnez la Bible. Non, vous avez été un enfant, un bébé spirituel. Et vous avez manqué la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui est l'arme qui peut vous permettre de résister à toutes ces attaques de l'enfer. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez ouvrir les yeux. Regardez ce qui est arrivé à l'église des Galates. L'apôtre Paul est passé dans cette ville. Il a prêché la bonne nouvelle, il a ouvert et a établi des églises. Après lui, la Bible dit qu'il y a quelques frères qui sont venus des Judées, qui sont des frères judaïsants, et qui sont venus superposer sur l'enseignement de Paul, de Pierre et de Paul un autre enseignement. Paul a enseigné le salut par grâce et la liberté que nous avons dans la foi. Et quand ses amis qui sont venus de la Judée arrivent en Galatie, ils disent aux païens qui s'étaient convertis que vous avez fait une bonne chose de vous convertir. Mais il y a un problème, vous devez croire non seulement à Jésus-Christ, mais vous devez aussi croire à la loi de Moïse. Donc si Paul vous a dit de ne pas croire à la loi de Moïse, il a commis une erreur. Ce qui fait que dans l'église, il y a eu des camps. Qu'est-ce que Paul fait? Quand Paul écrit aux Galates, il leur dit, Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Pourquoi il dit ces choses? C'est-à-dire, Paul considère que il y a eu une main invisible de l'ennemi qui est venue perturber la foi de cette jeune église. Mais pourquoi il y a eu un groupe qui a cédé à cet enseignement? C'est tout simplement parce qu'il n'était pas affermi dans la bonne connaissance de la parole de Dieu.
Amen.
Voilà pourquoi je suis en train de vous ramener seulement à la connaissance de la parole de Dieu, qui est une arme qui peut vous aider à résister à toutes les velléités de beaucoup de menteurs qui viennent aujourd'hui. La Bible dit ceci dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront leur foi, ils vont abandonner leurs croyances et ils vont se mettre à suivre les enseignements des séducteurs. La troisième chose que j'aimerais fixer dans votre esprit, c'est que Dieu ne fait pas des canulars. Amen.
Amen.
Dieu ne fait pas des canulars. Si Dieu vous avertit d'un danger, c'est que le danger est réel.
Amen. Amen.
Si Dieu tire la sonnette d'alarme pour vous dire il y a un danger, c'est que le danger est réel.
Amen.
Jésus a averti Pierre. Il lui a dit, Pierre, attention, Satan te réclame, cette nuit tu vas me renier. Pierre a dit, non Seigneur, ça ne peut pas arriver. Même si tout le monde t'abandonne, moi je ne peux pas t'abandonner. Après quelques heures, je ne le connais pas. Il est tombé dans le piège de Satan. Frère, la Bible dit que dans les derniers jours, quelques-uns vont abandonner leur foi et ils vont suivre les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Ça, c'est un avertissement qui est donné à l'Église et nous devons prendre cet avertissement très au sérieux. Nous sommes la génération des derniers jours. Nous sommes la génération qui précède l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons une prolifération exponentielle de plusieurs docteurs et de plusieurs enseignants au milieu de nos frères. Nous voyons une prolifération exponentielle de plusieurs doctrines parmi nous. Mais Dieu nous a déjà avertis. Il nous a dit, faites attention. Dans les derniers jours, certains vont abandonner leur foi et ils vont suivre les séducteurs. Séduire, c'est quoi? C'est gagner facilement les services d'une personne. On peut gagner facilement une personne en utilisant des tactiques. Ça peut être soit la flatterie ou même... La flatterie, c'est quoi? Ça consiste tout simplement à dépasser les qualités admirables de la personne. Lorsqu'on regarde une femme, oh, tu es vraiment la plus belle du monde. Frère, toi, tu as fait un concours et tu as trouvé qu'elle est la plus belle du monde. Non. Mais ça, c'est quoi? C'est la flatterie, tout simplement, pour pouvoir gagner ses services. Et le deuxième terme que je voulais, dont je voulais parler, c'est la séduction. Quand on est dans la séduction, on augmente ses propres qualités. Écoutez, je suis un grand docteur. Moi, je connais toute la parole. Ça, c'est pour séduire. Et quand les enfants dans la foi, les gens immatures, entendent ce discours, oh non, 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 un puissant prophète est arrivé. Il fait des miracles. Frère, est-ce que vous le connaissez? Dieu vous a averti, frère. L'apôtre Jean dit quelque chose qui est très important. Il dit que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans vos maisons, ne lui dites même pas bonjour. C'est-à-dire quoi? Si vous trouvez un docteur qui vous apporte un enseignement qui n'est pas soutenu par la parole de Dieu, dites à ce frère, frère, n'entrez pas ici chez moi. Dans la vie, frère, dans la vie, il y a certaines personnes à qui on ne peut même pas dire bonjour. Il y a certaines personnes qu'on ne peut même pas fréquenter, si vous voulez votre propre salut. Il y a certaines églises qu'on ne peut même pas fréquenter. Vous entendez dire qu'il y a une église sataniste, je vais dire non, non, moi je suis curieux, je vais aller voir. Non, moi je n'ai pas d'église, je vais partout. Frère, vous n'avez pas d'église, vous allez partout, jusqu'au moment où vous allez vous retrouver dans l'enfer. Les chrétiens immatures développent une curiosité, mais qui ouvre leur propre tombeau. Parce qu'ils n'ont pas de sens de discernement, ils ne connaissent pas. On m'a raconté quelque chose de bête. Il y a un frère qui prêche et qui dit que ben, vous ne pouvez pas donner la dîme à l'église. Ce sont des taxes, c'est pour les pasteurs, etc. Ils vous exploitent. Et il y a certaines personnes qui ont fréquenté des églises qui sautent et qui disent que nous avons découvert la vérité. Attendez. La vérité, c'est Jésus-Christ.
Amen.
La vérité, c'est la parole de Dieu.
Amen.
Quand vous avez affaire à une telle doctrine, commencez par ouvrir la Bible. Quand j'ouvre ma Bible, le mot dîme est au pluriel et il est aussi au singulier. Au pluriel, il apparaît 9 fois dans la Bible. Au singulier, il apparaît 33 fois dans la Bible, dont 9 fois dans le Nouveau Testament. Et dans tous ces passages où le mot dîme apparaît, pas un seul verset, je vous le dis, pas un seul verset n'a aboli la dîme. Vous, vous avez découvert la vérité. C'est quelle vérité que vous avez découvert? Le chrétien ne donne pas la dîme à cause de la loi. Non. Le chrétien donne la dîme parce qu'il marche dans les traces de leur père Abraham. Et la Bible dit que nous qui avons la foi, nous devons marcher sur les traces de notre père Abraham de la façon dont il avait marché avant la circoncision. C'est-à-dire quand il était encore aussi considéré comme nous les païens. Et c'est à ce moment-là que Abraham fait la rencontre avec Melchisédek, sacrificateur, et il sort la dîme, il donne à Melchisédek. La loi est arrivée 400 ans plus tard. Et la loi ne commande pas ma façon d'imiter Abraham dans sa marche avec Dieu. Puisque la Bible me le recommande, je pourrais vous donner le verset. Eh bien, lorsque moi je donne la dîme, je la donne par la foi et non pas parce qu'on m'a obligé. Je la donne en imitation de ce qu'Abraham a fait. Mais quelle est la véritable raison pour laquelle de tels enseignements ont du succès? Si vous lisez le livre de Job, vous allez trouver que Satan a une conviction que si on touche à la richesse de l'homme, l'homme peut facilement renier Dieu. Et si on touche à sa santé, il va abandonner Dieu. Et Satan, c'est un stratège. Il sait bien que si j'ai dit aux hommes, on vous demande trop d'argent, ne donnez pas l'argent, les hommes vont accepter parce que le cœur de l'homme est attaché à la richesse. Mais derrière ça, c'est quoi? C'est une fausse doctrine qu'on vous donne pour pouvoir vous égarer du chemin du salut. Parce qu'en tant que chrétien, ce que nous devons faire, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'un exemple. Il y a plusieurs exemples que je peux vous donner. J'ai trouvé un autre sur le site qui proclame à haute voix. La Bible dit, n'appelez personne père, n'appelez personne père, n'appelez personne père. Frère, il y a des gens qui sont allés à l'école pour prendre leur temps à étudier la parole de Dieu.
quand vous ne faites pas ce que je vous ai toujours dit, une approche macroscopique de la parole de Dieu, frère, vous vous égarez et vous égarez les gens. Mais bref, pour résister à toute cette tempête diabolique, Dieu veut que vous puissiez connaître la parole de Dieu. Que vous puissiez devenir des chrétiens matures. Ce qui fait la différence entre les chrétiens matures et les chrétiens immatures, c'est leur stabilité. Aujourd'hui, un prophète est arrivé à Montréal Nord, je suis arrivé. Aujourd'hui, un guérisseur est arrivé à Montréal Sud, me voici là. Aujourd'hui, tel a enseigné que les femmes doivent porter les pantalons, je dois porter les pantalons. Demain, tel autre a enseigné que les femmes ne doivent pas porter les pantalons, je ne peux pas porter les pantalons. Après demain, tel prophète est arrivé, il demande qu'on puisse prier sans habit, je me présente là-bas, je laisse mon pantalon à la porte. Vous voyez, où est-ce que les gens vont arriver? Pourquoi? Parce que ils ne savent pas où ils vont et ce qu'ils ont comme base doctrinale. Vous pouvez rire, frères et sœurs, mais nous sommes en train de vivre la génération qui précède le retour de Jésus-Christ et les faux docteurs, les faux prophètes seront encore nombreux et ils vont égarer plusieurs personnes. Vous voulez être égaré, alors ignorez la connaissance de la parole de Dieu. Vous voulez vraiment résister à toute cette tempête diabolique, affermissez-vous dans la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai parlé de la maturité spirituelle. Pourquoi la maturité spirituelle est importante? Parce que nous sommes en train de vivre le temps qui précède l'avènement du Seigneur et que Dieu nous a averti qu'il y aura beaucoup de faux docteurs. Et à cause de cela, l'unique arme dont nous disposons pour résister à ces flèches de ces faux docteurs, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Et si nous connaissons la parole, nous sommes alors déclarés des chrétiens matures. Et Dieu a besoin des chrétiens matures pour conserver l'unité de l'Église. On arrête là. Ma prière à Dieu, c'est que vous soyez des chrétiens matures.